Alors, le chapitre 7, c'est le chapitre le plus compliqué de l'épître. On s'était arrêté, je pense, au verset 13, et on a vu comment saint Paul donc, nous présentait la loi sous un double éclairage, d'une part comme une loi qui est sainte, qui est bonne, avec un commandement qui conduit à la vie, et d'autre part une loi qui est, perméable à l'action du péché, ou en tout cas qui peut être récupérée par le péché à son profit. Puisque saisissant l'occasion, par le précepte, le péché m'a séduit. Et donc ce qui permet à saint Paul d'avoir une espèce de renversement assez surprenant, hein, faut reconnaître, où la loi qui conduit, qui est faite pour la vie, conduit à la mort. Quand il n'y avait pas de loi, je vivais, dit saint Paul. Et maintenant qu'il y a la loi, c'est le péché qui prend vie. Vous voyez le renversement, alors que le Deutéronome nous disait « choisis la vie ». Il ne disait pas « fais que le péché vive ». Alors certainement, ça Marie l'a dit à juste titre hier, hein, alors on déterme un petit peu fort, elle disait, Paul renie sa judaïté, c'est ce que pensent les juifs. Il faut faire la part de l'argumentation, hein. Paul ne prétend quand même pas, dans ces quelques versets, présenter une théologie absolument exhaustive de la loi. D'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un pourrait jamais faire ça. Il faudrait lire la loi intégralement. Donc, il faut aussi, c'est pas pour réduire à néant les arguments de Paul, mais il a un point de vue qui est partiel quand même sur la loi, mais qui sert à son projet, c'est non seulement de montrer que c'est sur la base non de la Torah et des préceptes de la Torah, mais la base de la foi que tous les hommes sont sauvés, et aussi d'expliquer comment est-ce que la loi garde quand même un rôle dans le dessein de salut de Dieu. Et elle a un rôle, mais positif au sens où il est doublement négatif. Saint Hegel, priez pour nous, puisque le péché a retourné la loi contre son auteur, à savoir Dieu, mais à ce moment-là, Dieu fait une prise de judo au péché, puisque le péché se révèle pour ce qu'il est. Ce qui est peut-être plus important, au fond, pour le salut, qu'une espèce d'accomplissement, innocent des commandements. Mais imaginez quelqu'un qui est simplement un bon naturel, qui ne commet pas de péché. Il y a des gens qui ont un bon naturel, quelqu'un qui n'a pas spécialement de grandes passions, qui n'a pas de grands vices, qui est gentil avec tout le monde, bon. Est-ce qu'il est vraiment situé de manière juste vis-à-vis de Dieu? Est-ce qu'il est dans la justice de Dieu? C'est pas si clair que ça en réalité. Alors la loi, dans la mesure où elle révèle, elle offre une prise au péché, mais dans la mesure où justement le péché se dévoile comme péché, c'est-à-dire comme attaquant la relation de l'homme à Dieu, elle permet quand même à l'homme de se situer face à Dieu et de dire « mais j'ai besoin de salut ». Donc finalement, au bout du compte, la loi est sainte. Il y aurait peut-être un usage, si Adam n'avait pas péché, on pourrait dire, il n'y aurait peut-être pas eu de Torah non plus, hein, mais il y aurait peut-être un usage direct de la loi qui conduit à la vie, mais en fait ça, le péché qui est en nous le rend impossible. Mais finalement, les choses finissent quand même par s'arranger, puisque le péché se découvre pour ce qu'il est. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu donc jusqu'au verset 14. Et là, Paul, à partir du jusqu'au verset 13 inclus, et à partir du verset 14, Paul va reprendre les choses, c'est-à-dire comment est-ce que la loi, finalement, en étant récupérée par le péché, va diviser le cœur de l'homme et le conduire à la mort. Parce que c'est ce qu'il dit. Quand la loi a été donnée, le péché a pris vie, et moi je suis mort. C'est une mort spirituelle. En effet, nous savons, donc verset 14, nous savons que la loi est spirituelle. Donc il y a une autre manière, au fond, de dire que la loi est sainte. À peu près, elle vient de l'Esprit Saint. Donc, mais moi, je suis un être de chair vendu au pouvoir du péché. Le mot chair, sarx, chez Paul, il est susceptible de recevoir deux sens différents, donc il faut être à chaque fois attentif. Ça peut désigner simplement, dans une ligne assez vétérotestamentaire, la condition limitée, finie et même fragile de l'homme. Dans l'anthropologie biblique, vétérotestamentaire, on oppose la chair et les os. Les os, c'est ce qui est dur. Vous voyez, un corps se corrompt, mais il reste le squelette. Un cadavre se corrompt, mais il reste. Donc, ça désigne la solidité, symboliquement évidemment, la solidité, la force de l'homme, là où il est puissant. Alors que la chair, ça se blesse très facilement. Marcher 10 km, vous avez des ampoules. Vous tombez, vous saignez. Donc la chair, symboliquement, c'est plutôt le pôle de la fragilité humaine. Quand le squelette, c'est plutôt les os, c'est plutôt le pôle de la force. Hein. Tu es la chair de ma chair, celle-ci est la chair de ma chair. Et l'os de mes os, ça veut dire que la femme est la faiblesse de l'homme et la force de sa force. Alors Paul emploie assez souvent d'ailleurs hein, le mot chair de manière neutre moralement. Il ne s'agit pas de péché ou de rue, mais aujourd'hui, enfin philosophiquement, on dirait la finitude de l'homme. Et il y a d'autres moments où, en revanche, il emploie chair. Alors ça, c'est plus chair opposé à os, c'est chair opposé à esprit. Et dans ce cas-là, ça désigne une attitude, la condition de l'homme devant Dieu, mais dans son intégralité. C'est un simple, un petit peu subtil, c'est-à-dire que je ne pourrais pas le prendre dans un sens gnostique où ça serait la matière qui serait opposée à Dieu, quand l'âme serait immédiatement divine, ou aurait une étincelle de divinité en elle. En fait, dans ce sens-là, où chair est opposée à esprit, vivre selon la chair, ça veut dire vivre dans une dynamique d'éloignement de Dieu, c'est-à-dire dans une dynamique de péché, et vivre selon l'esprit, alors là vous pouvez mettre majuscule à E, hein, c'est vivre selon l'Esprit Saint, c'est-à-dire selon la promesse des prophètes, par exemple Ézéchiel, c'est vivre en obéissance à Dieu et en aimant Dieu. L'Esprit, on a vu en Romains 5, l'Esprit. L'Esprit a été répandu dans nos cœurs, donc on vit dans l'Esprit. Cela étant, s'il n'y a pas de dualisme ontologique dans la pensée paulinienne, il y a quand même un espèce de dualisme moral au sens, c'est pas, parce que c'est quand même pas arbitraire que pour désigner le composé humain complet qui s'éloigne de Dieu, on utilise quand même le mot chair. Parfois, il y a aussi la loi des membres ou la loi du corps, c'est-à-dire que là encore, c'est très juif, on l'a vu dans le premier chapitre, c'est que le premier lieu où se manifeste normalement mon opposition à Dieu, ça sera, disons, des péchés, alors charnels, pas forcément au sens de péché sexuel, mais en tout cas, des choses qui sont visibles charnellement, au moins au début. Méfions-nous quand même, ça c'est pas un truc dont Paul parle ici, mais c'est un peu ce que j'ai essayé de balbutier hier de manière maladroite, c'est que quand on a progressé dans l'échelle du péché, vous voyez, on peut progresser dans l'échelle de la sainteté, mais on peut aussi, et en gros, quand on progresse dans l'échelle de la sainteté, c'est que on intègre de plus en plus la chair dans notre vie d'amour de Dieu. Alors que progresser dans le sens du péché, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on peut finalement avoir une vie assez morale, entre guillemets, au plan de la chair, alors, pas de commettre de péché charnel dans tous les sens du mot, hein, pas de gourmandise, pas de truc, tout en étant, en ayant une mentalité de plus en plus hostile à Dieu. Donc tout ça est assez subtil, mais enfin, en gros, vivre selon la chair, c'est s'opposer à Dieu, et au moins au début, ça se manifeste charnellement. C'est pour ça qu'il prend, et aussi parce que, pour Paul, c'est, là il va nous l'expliquer, c'est aussi dans les péchés charnels qu'on prend le plus conscience que notre moi intérieur est divisé. Alors que quand on est devenu très avancé dans l'échelle du péché, on va essayer, on n'arrive jamais complètement, mais à se réunifier dans l'opposition à Dieu. Bon, là je vais un cran plus loin que ce dit l'Épître aux Romains, mais c'est juste pour que vous soyez attentifs, le mot chair, il faut toujours le saisir dans un binôme. Chair qui n'est pas toujours exprimé, c'est ça qui est compliqué, mais donc chair versus os, c'est finitude, chair versus esprit, c'est péché. Alors, quand il dit « la loi est spirituelle, mais moi je suis un être de chair », là, si vous voulez, c'est très clair. Pour le coup, on a le binôme et on voit bien que c'est l'homme en tant qu'il est engagé dans une dynamique d'éloignement de Dieu, vendu au pouvoir du péché. Donc, ce qui veut dire encore un esclavage. Hein. Vraiment, alors ça c'est très très célèbre, ce que je fais, Isbert, any problème? Non, dis-toi.
Non, je lui demandais juste à la petite.
Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Voilà l'être divisé de l'homme. C'est ça la mort, en fait. Hein. Le péché a pris vie et moi je suis mort. Car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais d'accord avec la loi qu'elle est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Donc là, il nous permet d'avancer un petit peu, faire un pas de plus dans cette idée que la loi est détournée par le péché, ce qui fait que la loi, par le commandement, le péché me séduit, mais d'un autre côté, dans la division même que ça fait advenir en moi, je comprends que c'est le péché qui agit en moi. Parce que je me dis, mais en fait, je ne le veux pas, ce que je fais. C'est comme ça que le péché apparaît à mes yeux, et qu'en fait, du coup, il perd la bataille. Hein. Parce que, constatant que mon être est divisé, maintenant, je dis, je peux dire en vérité à Dieu, mais j'ai besoin de toi, en gros, pour me retrouver comme un je unique. Alors, ce que je fais, je ne le comprends pas, je ne fais pas ce que je veux. Donc en gros, la loi me dit, quand tu vois la carriole de ton ennemi ou son âne qui tombe par terre, tu t'arrêtes et tu l'aides. Puis en fait, on n'a juste pas envie de faire ça. Enfin, donc, je voudrais le faire, mais vis-à-vis du bien, on dépasse rarement le stade de la velléité. Sensiblement, on passe du je veux à je voudrais, puis à j'aurais bien voulu. Et puis finalement, on ne le fait jamais. C'est ça le problème. En fait, on voudrait bien être saint, mais on ne veut pas être saint. On voudrait bien, mais on ne veut pas. Parce que c'est une question de moyens. Ça n'est pas qu'une question de moyens. Si. Inversement, je fais ce que je hais. C'est-à-dire que, bon, je lis la Bible, je vois bien que... Bon, j'ai l'expérience de la vie, je vois bien que le mal, faire le péché conduit au malheur à la fois... des autres et de moi-même. C'est-à-dire que la première victime du mal, c'est toujours celui qui connaît le mal. Même les philosophes grecs étaient capables de le voir, ça. Et donc, en fait, on n'aime pas le mal, même quand on le commet. Enfin, on sait bien qu'on va être malheureux, qu'après... Et pourtant, on le fait. Voilà, expérience, on pourrait dire, de psychologie morale et religieuse élémentaire. Je fais ce que je hais, je ne fais pas ce que je veux. Et Paul nous dit, mais la loi, elle me donne un éclairage. C'est plus la loi qui vous commande de faire telle chose et telle chose en direct, mais c'est plutôt, elle me donne un éclairage sur cette division. Elle me révèle que précisément, puisque je ne fais pas ce que je voudrais, c'est qu'il y a une autre volonté qui est capable de tendre mon action. Et cette volonté, alors c'est difficile à qualifier, il ne faudrait pas aller jusqu'à dire on est des possédés, oui, ça serait très excessif, mais enfin, on pourrait dire il y a quand même en nous la présence d'une volonté hostile à Dieu, présence que nous ratifions et que nous dénonçons en même temps, en fait, il y a à la fois un je veux et je veux pas. Alors c'est ça qui nous divise intérieurement. Donc, en fait, je ne sais plus qui je suis, puisque il y a moi, il n'y a pas moi. Donc le péché qui habite en moi, encore une fois, quand le péché ici est pris au singulier, c'est pas un acte, mais c'est ce que, alors dans la théologie catholique ultérieure, on appellera, enfin l'école de Saint-Augustin surtout, on appellera la concupiscencia ou la libido. C'est à peu près, je parle pas bien, je parle pas fort, c'est à peu près la même, même sens, mais derrière, ça c'est une instance psychologique, mais derrière, vous pouvez reconnaître aussi l'action du principe du mal, donc le serpent, le démon, le diable, enfin, tout ce que vous voulez, mais qui nous a pris en son pouvoir, qui a pris une option sur nous du fait du péché d'Adam. Donc, toutes les pièces du puzzle se mettent un peu ensemble. Hein. Donc, là, on commence à comprendre comment est l'homme, non pas abstraitement comme un philosophe pourrait le dire, mais existentiellement, moralement et religieusement. Alors je reprends. Alors, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Là encore, hein, on pourrait tordre la pensée polynienne en disant, dans un sens cathare, en fait, vous voyez. Mais du coup, c'est juste la matière qui est responsable. C'est justement pas ce que veut dire Paul, c'est ça le drame. C'est que je suis quand même responsable de quelque chose que je ne veux pas, mais je le fais quand même, donc je le veux aussi, je le veux et je le veux pas. Car je sais, verset 18, que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. En effet, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque je ne fais pas le bien que je veux, et commets le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. En fait, ce qui nous aide, hein, c'est des philosophies un peu comme celle de... C'est des philosophies comme... Tu as des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles? Ah, super. Donc tu me diras tout à l'heure. Une philosophie comme celle de Maurice Blondel nous aide à comprendre ce genre de choses, parce que ça nous aide à comprendre que le dynamisme de la volonté, c'est un dynamisme étagé. C'est pas juste binaire, hein. C'est un ordinateur, je vais, je fais. En fait, il peut y avoir, il y a une volonté qui peut être assez apparente à ma conscience, je bondais, mais d'une certaine manière, avec des précautions, hein, la psychologie contemporaine nous aide aussi à comprendre ça. On a en nous des désirs cachés, des désirs implicites, des désirs inconscients, qui vont s'exercer, alors aussi en passant au niveau conscient, mais parfois transformés en leur contraire. Enfin, bon, c'est très compliqué la vie de la volonté. Alors, il y a en nous une volonté, je dirais, assez... peut-être celle qui est la plus en surface, en général, quand même, au moins pour le juif. C'est de vouloir le bien. Enfin, on n'est pas le juif de base, il essaye comme d'aimer Dieu. Il a les commandements, il veut faire la Torah, il veut accomplir les préceptes. Mais à un autre niveau, il sent qu'il y a quelque chose qui agit contre lui, contre l'accomplissement de ses... commandement, donc contre sa volonté, ça vient d'un autre, et c'est pourtant sa volonté, mais à un niveau plus profond. Le péché qui habite en moi. Je trouve donc une loi s'imposant à moi quand je veux faire le bien. Alors là, Paul s'amuse un peu avec le mot de nomos. Hein. Il y a la loi de Moïse qui est sainte et bonne, mais qui révèle en moi une autre loi. Alors la loi, pas au sens d'une suite de commandements, mais c'est plutôt... comme une loi psychologique ou une loi religieuse, une loi physique. Enfin, c'est quelque chose qui informe d'une certaine intelligibilité un comportement. Mais cette intelligibilité, c'est celle du mal. Je trouve une loi s'imposant à moi, esclave, quand je veux faire le bien. Le mal seul se présente à moi. Car je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur, mais j'aperçois une autre loi dans mes membres. Alors, mes membres, les membres du corps. En anthropologie biblique, le mal, c'est toujours par les pieds, on court vers le mal, par les mains, on verse le sang, et c'est aussi c'est la loi des membres, c'est aussi la loi du corps, c'est la loi de la chair, c'est toujours un peu le même champ sémantique. Une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Là, il essaye de représenter le même enseignement dans une veine un petit peu plus platonicienne. L'homme intérieur, je pense que ça apparaît dans la République, hein, au livre 9. Je me souviens bien. L'homme intérieur est capable de dire mais la loi est belle et bonne et je veux l'accomplir. Et puis en fait, quand je concrètement, je me rends compte que ou je n'y arrive pas, finalement je voudrais mais je ne prends pas les moyens et puis finalement je fais le mal. Et le vocabulaire, toujours un vocabulaire assez imagé dans l'ordre de l'esclavage, hein, qui m'enchaîne à la loi du péché. On est esclave. D'où les trois mots importants dans la sotériologie. Là, cette fois, je pense que vous les avez en tête. Dikaiosune, apolutrosis et hilasmos. Alors là, il y a un cri, alors un peu de pathos au niveau rhétorique. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? De quelle mort s'agit-il? Ben les deux. À la fois la mort du corps, mais dans son mouvement, la mort de l'âme. Saint Augustin synthétisera génialement la pensée de Saint Paul en disant que le rapport du corps à l'âme représente et concrétise le rapport de l'homme à Dieu. La mort du corps, c'est la séparation du corps et de l'âme, et donc ça entraîne la séparation de l'homme avec Dieu. Inversement, la résurrection, qui est l'unité insécable du corps et de l'âme, c'est l'unité insécable de l'homme et de Dieu. Donc c'est les deux morts, hein, mort du corps et mort de l'âme, c'est-à-dire le péché. Alors qui me délivrera? Donc là, bon, de nouveau, métaphore de la rédemption. Qui payera Pour moi, enfin, on peut racheter un esclave, mais il faut payer. Qui payera? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ben voilà, il donne la réponse. C'est Jésus-Christ. C'est donc bien moi qui, par la raison, sers une loi de Dieu et par la chair, une loi de péché. Mais nous sommes divisés entre le corps et l'âme, parce que nous sentons qu'il y a une loi en nous qui s'impose à nous et qui nous empêche de faire le bien. Mais cette division du corps et de l'âme, qui ultimement, le point terminal, c'est la séparation du corps et de l'âme qui s'appelle la mort. Et cette séparation, cette division du corps et de l'âme est aussi intériorisée dans la conscience du croyant, dans son âme, dans son cœur, comme une séparation avec Dieu. Et ça s'appelle le péché. Un être mortel, un être spirituel, soumis à la mort comme une nécessité, ne peut être que dans un état désaccordé vis-à-vis de Dieu. Voilà la clé d'anthropologie paulinienne, telle que saint Augustin la résume, mais plus je lis saint Paul, et plus je pense qu'il a raison. Vous voyez, il y a un lien intrinsèque, alors là, on échappe complètement au regard que la biologie ou la physique peut porter sur la mort. Au plan biologique, physique, enfin, la mort, tous les êtres vivants sont soumis à des processus donc, d'échange d'énergie, de machin et trucs, puis à un moment donné, ça sue, ça marche plus, ça truc, et le truc s'arrête. Voilà. Il n'y a absolument pas question, enfin, un biologiste ne peut voir aucun indice, ni positif ni négatif d'ailleurs, spirituel dans la mort d'un vivant. Mais quand il s'agit de. Quand on adopte un regard spirituel, c'est bien différent. Un être, l'être humain, donc qui est à la fois tourné vers Dieu, mais qui a un corps de chair, pour lui. La mort en tant que telle, elle est qualifiée spirituellement. Il n'y a pas de mort neutre. Ça n'existe pas. Et avant le Christ, cette mort, elle révèle la mort du corps, donc la mortalité du corps, le fait que, de toute façon, dès le premier instant de notre conception, nous sommes en route vers la mort. Et en chaque instant de notre vie, nous rapproche de la mort, ça nous révèle que finalement, nous sommes en route vers la rupture définitive d'avec Dieu. Ça s'appelle le péché. Donc ça révèle la mort de l'âme. Alors quand Jésus-Christ arrive, c'est le cri de victoire de Paul, un malheureux homme que je suis, donc il se dit, mais voilà, cette fois je vois ce que c'est que le péché, vous voyez, quand on arrive là. Hein. Si le péché s'impose à moi avec la nécessité qui est celle de la mortalité, on est foutu. On est juste foutu. Vous avez beau développer des grandes sagesses, des grands machins... écoutez pousser vos cheveux en prenant la position de la fleur du lotus, essayez, enfin, toutes les sagesses humaines, les trucs comme ça, sont complètement finissent par buter contre la mort, vous voyez. Donc malheureux homme que je suis, il n'y a plus aucune possibilité de salut. Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, ben, le Christ le fait. Et comment est-ce qu'il m'en délivre? Il m'en délivre en traversant la mort et en ressuscitant, c'est-à-dire en me conduisant non pas à une vie qui serait une vie dégagée de manière perpétuelle du corps, même s'il y aura sans doute un statut de l'âme séparée, difficile à préciser, mais entre le jugement individuel et la mort, le jugement individuel et le jugement général, mais qui est quand même une vie de résurrection. Alors ça, c'est cette... Alors, le Christ, en gros, il change la mort de signe. C'est ça, encore, la grande astuce et la prise de judo. Hein, la loi, que Dieu donne la loi à Moïse, le diable se frotte les mains en disant oh, « ben, super, maintenant, ils sont foutus, le péché va prendre vie », mais du coup, il se révèle comme péché, et ça permet à l'homme de crier « malheureux homme que je suis ». Heureux est l'homme qui crie « malheureux homme que je suis ». Encore une fois, hein, je trouve qu'on finit toujours par tourner autour de la parabole du fils prodigue. Hein. Et à un moment donné, il faut envier les cochons. Quand vous enviez les cochons, la nourriture des cochons, c'est hein, quand, les cochons qui mangent des caroubes, peut-être que vous êtes en route vers le vrai salut. Malheureux homme que je suis, dire ce cri en vérité, c'est... Il n'y a que la rencontre de Jésus-Christ qui vous met dans un meilleur état spirituel que ça, de pouvoir dire en vérité « malheureux homme que je suis ». Et quand vous êtes dit ça, en fait, le péché a perdu déjà, puisque Dieu a envoyé son Fils. Si Dieu n'avait pas envoyé son Fils, ça serait un cri de douleur horrible, en fait. Et puisque Dieu a envoyé son fils, là, bon ben, vous n'avez plus qu'à accueillir l'Esprit qui vous fait croire au Christ et vous êtes engagé dans le chemin du salut. Alors le chapitre 8, après ce chapitre 7, assez presque tragique en fait, hein, au sens grec du mot, hein, y a un destin qui semble s'imposer à l'homme, mais va être très positif puisque lui, au contraire, va nous dire, mais par la foi, vous vivez déjà de manière anticipée la résurrection et donc la victoire du Christ sur la mort. La mort change de signe. Elle était le signe du péché, donc de la séparation de l'homme avec Dieu. Avec le Christ, comme le Christ est mort pour nous sauver, la mort devient le signe, pour le baptiser évidemment, de la suite du Christ. Et donc tout est inversé. Mais si vous suivez le Christ, enfin, c'est pour ça que le martyr, c'est le modèle et la perfection de la sainteté, hein, d'une certaine manière, c'est que le martyr sanglant, c'est que là, c'est évident que du coup, que je sois mordu par les dents des bêtes, hein, disait Saint Ignace d'Antioche, parce que pour moi, vivre, c'est le Christ, ça, c'est, je cite Paul, mais enfin, Saint Ignace le cite aussi, parce que du coup, c'est une mort qui devient, vous mourrez dans le Christ. Ça change complètement la portée de la mort. C'est vraiment la grande défaite du diable. Il y a quand même la séparation du corps et de l'âme, mais ça devient, la séparation du corps et de l'âme devient une réalité christologiquement située. Ça, c'est vraiment un truc que le diable n'a pas vu venir le coup. Ça, c'est... Alors,
pardon,
oui.
J'ai pas très compris la dernière phrase, christologiquement située, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire qu'il y a une manière de mourir qui change le sens spirituel de la mort. Anthropologiquement, la mort signifie la séparation d'avec Dieu. Christologiquement, la mort signifie l'obéissance ultime à Dieu, c'est-à-dire la justice. Puisque le Christ est mort pour nous sauver. C'est ça qu'on retrouve. Alors les pères le disent parfois avec des thèses, ils ont des mots qui peuvent nous paraître extérieurs un petit peu ou un peu faibles. C'est la thèse de l'hameçon. Enfin, plutôt le schéma de l'hameçon, ils disent, bon ben la mort, c'est comme un gros poisson qui veut nous faire mourir, hein, comme la baleine de Jonas ou je sais pas quoi. Puis le Christ, alors on veut pêcher le poisson, on va mettre, sur un hameçon, on met un petit appât. Et alors la mort qui est un peu pas maligne, hop, elle va essayer de dévorer le Christ, mais comme le Christ c'est le Fils de Dieu, finalement c'est elle qui se retrouve dévorée. Alors ça peut nous paraître un peu enfantin, mais anthropologiquement et spirituellement ça l'est pas du tout. Parce que ça veut dire que la mort change vraiment non seulement de signification pour notre esprit, mais même de réalité ontologique. La séparation du corps et de l'âme, je prends un vocabulaire assez platonicien, mais après tout, je ne suis pas très loin de ce que fait saint Paul. Donc, l'Église a validé ce vocabulaire. Donc, la séparation du corps et de l'âme, du point de vue de l'homme, c'est la séparation de l'homme d'avec Dieu. Parce que tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Mais comme le Christ est mort, et que par le baptême, nous mourons dans le sacrement pour vivre dans l'esprit, finalement, notre mort elle-même. Pour nous, mourir, c'est la continuité de la vie dans le Christ. Et donc la vie est plus forte que la mort. Mais parce que c'est une grandeur christologiquement située. C'est-à-dire que le Christ, il est mort comme un homme, mais il est mort comme un Dieu aussi. Et donc forcément, ontologiquement, la mort change de réalité. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce n'est pas juste le sens que je donne à la mort. Parce qu'après tout... Des gens, selon notre philosophie, notre sagesse, on peut dire ben, peut-être que la mort est une libération, enfin, ça serait un peu les platoniciens, ou au contraire, si je suis matérialiste, je veux dire la mort c'est le point de tout. Enfin, on peut donner mille interprétations à la mort, chaque Heidegger en donne une, Platon en donne une autre, mais c'est très bien, je veux dire, c'est pas idiot de réfléchir à la mort du point de vue philosophique, mais ce qui nous sauve, c'est pas simplement Jésus qui nous donne une autre manière de penser la mort, ça serait beaucoup trop faible. Il est mort. Il est vraiment mort, mais en vivant la mort, il a changé le contenu ontologique de la mort. Alors, c'est le cri de victoire de saint Paul. Grâce soit à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, parce qu'il me délivre de ce corps qui me voue à la mort. Donc, la mort du corps, dans le Christ, signifie la vie de l'âme. Et non plus la mort de l'âme. C'est pour ça que chez saint Paul, il y a des trucs qu'on a tout le temps, on va construire une concordance, c'est impressionnant, mais quelque chose qui revient toujours, c'est en Christo, en Christo, en Christo, en Christo. Tout ce qui compte, c'est en Christo. Si vous vivez, vous vivez dans le Christ. Si vous mourrez dans le Christ. Si vous mangez dans le Christ. Si vous avez des amis, vous avez des amis dans le Christ. Ça change tout. C'est plus Adam qui nous impose les coordonnées de notre existence. C'est le nouvel Adam, c'est-à-dire le Christ. C'est F, Romains 5. Donc c'est vraiment une nouvelle création, on peut dire. Le baptême, alors c'est dans la foi, hein, mais reconfigure le rapport de notre corps à notre âme. Ça ne change rien au niveau des lois de la nutrition, des lois de la biologie, de telle sorte. Bah, mon corps, enfin, je peux tomber malade le lendemain de mon baptême. Vous voyez, donc, mais la réalité spirituelle est changée. La réalité spirituelle, donc la réalité la plus profonde, hein, c'est vraiment, je dis ontologique, mais c'est pas vraiment un mot biblique. Il faut dire la réalité dans l'esprit. En pneumatis, c'est un truc comme ça. Alors, lisons très rapidement le chapitre 8. Il n'y a pas trop de difficultés. Alors, si quand même, avant que je quitte le chapitre 7, qui est le plus difficile, il y a un la grande question, c'est qui est ce jeu ? Qui dit malheureux homme que je suis, qui dit je fais ce que je veux pas, je fais ce que je hais, ce que je veux faire, je le fais pas, j'ai la loi des membres et tout ça. Qui est le jeu qui parle ? Vous allez me dire c'est saint Paul. Oui, mais le problème c'est à quel titre parle-t-il ? Est-ce qu'il est en train de nous livrer son expérience personnelle de juif avant sa conversion, on va dire ? Est-ce qu'il est en train de nous parler de sa vie au moment où il écrit son combat de juif, de chrétien qui a du mal à être saint? Ou est-ce que c'est encore autre chose et c'est un jeu plus rhétorique et abstrait qui, comment dire, ne correspond pas forcément à ce que lui, saint Paul, a vécu avant sa conversion, mais à quelque chose qu'il comprend une fois qu'il a été converti de la condition de l'homme, tout homme, qu'il soit juif ou païen, avant de rencontrer le Christ. En gros, enfin, si je prends saint Augustin, il a eu deux positions. Il a changé la première fois, dans ses premières explications de ce verset, il dit, là ici, Paul fait mémoire de sa condition malheureuse de juif qui cherche à accomplir la Torah en perfection et qui n'y arrive pas. Et donc c'est un jeu, c'est vraiment lui, mais c'est pas le jeu qu'il éprouve au moment où il écrit, puisque quand il écrit, il est devenu chrétien. Et dans les Retractationes, il dit en fait je me suis trompé, c'est vraiment Paul qui nous délivre un enseignement important sur la condition spirituelle du chrétien. Alors, est-ce que vous voyez que c'est quand même une décision extrêmement importante pour la spiritualité chrétienne de situer, enfin les deux positions ne sont pas du tout équivalentes, est-ce que vous le voyez ? Est-ce que quelqu'un veut m'en parler ?
Et du coup, la première ne concernerait pas ?
Voilà, elle nous concernerait, je dirais, un plan doctrinal. Pour comprendre pourquoi il y a eu la loi, qu'est-ce qu'a fait la loi, etc. Et en revanche, si c'est la deuxième, là on peut dire, ben, c'est notre expérience. Mais si c'est la deuxième, quelle question redoutable ça pose ? Si c'est la deuxième option ? Ouais, voilà. Exactement, en fait, on peut dire, mais mince ! Si, étant baptisé, je continue d'être soumis à cette dictature du péché qui est dans mes membres, on est vraiment très très mal. Alors, à votre avis, quelle est la position de Luther, qui est plutôt augustinien, donc il connaît deux positions. Quelle est la position que Luther va adopter ? Non, la deuxième. Oui, il va même la prendre de manière très radicale, puisqu'en gros, il dit il n'y a aucune transformation intérieure. C'est Dieu qui change de regard. Donc c'est vraiment la position des rétractationnistes, mais même radicalisée. Alors, c'est compliqué, hein, parce que, en gros, hein, c'est vraiment la question, comment expliquer et situer le fait que même baptisés, les chrétiens continuent d'être pécheurs, et parfois gravement. Les trois grands, j'ouvre un peu une parenthèse, mais c'est pour faire sentir que par moments, il y a des options herméneutiques par rapport à l'écriture sainte qui ont des conséquences abyssales sur la spiritualité chrétienne. Bah, dès ma limite, ça pourrait presque conduire à l'incrédulité. Hein. À quoi ça sert d'être baptisé si, à la limite, ça ne change rien finalement. entre le baptême et la Torah de Moïse, la conclusion est la même, quoi. Malheureux homme que je suis. Bon. Donc Luther radicalise. Ce que fait, alors, disons, l'Église primitive, elle a beaucoup de mal à situer spirituellement la permanence du péché dans le baptisé. Elle a beaucoup de mal, parce qu'elle n'a pas les arguments théologiques pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, elle comprend, à mon avis, plutôt justement d'ailleurs, je pense qu'au niveau du sens littéral, je pense que l'Augustin des Retractationes se trompe. Je pense que c'est le premier Augustin qui a raison. Dans le mouvement rhétorique de Romain, c'est quand même assez clair. Je vois qu'Ombline, tu lèves la main ou tu veux...
Est-ce que le baptême ne rend pas des grâces?
Alors c'est vrai qu'on n'a plus, on n'a pas la science infuse, on n'a pas le... C'est pas exactement ce que dira le Concile de Trente, en fait. Je vais vous donner la solution du Concile de Trente, mais bon, c'est sûr que... Enfin, en tout cas, c'est un constat. C'est que si, par exemple, je sais pas, j'ai des mauvaises habitudes, ce qu'on appelle des vices, je suis baptisé adulte, par exemple, j'ai le vice de, je sais pas, de fumer, par exemple, bon, c'est pas un vice très grave, enfin, c'est pas le fait. On veut dire, on voit quand même que c'est pas, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui vient exalter l'être humain que je suis. Ben, je ne suis pas dégagé ou débarrassé de mes mauvaises habitudes le lendemain de mon baptême. Vous voyez, donc, à tel point qu'on peut se dire toujours, mais est-ce que le baptême, ça sert à quelque chose, au fond ? Voilà. Alors, l'Église primitive a du mal à comprendre la permanence du péché dans le baptisé, en conséquence de quoi elle donne un enseignement qui paraît souvent rigoriste. Parce qu'en gros, alors, c'est pas vraiment qu'on dira le gars qui pêche gravement, les trois péchés graves, c'est meurtre, adultère, apostasie. Vous voyez, c'est même restreint par rapport au décalogue. Hein. Les trois sont dans le décalogue. L'apostasie, ça serait le premier commandement. Le meurtre, quel commandement déjà ? Oui, et l'adultère ? Voilà, des sextos, le bien nommé. Donc on réduit les choses, mais enfin, voilà. Alors, en fait, la position de l'Église primitive, c'est de dire on abandonne la personne qui a commis le meurtre, l'adultère ou l'apostasie à la miséricorde de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ira en enfer, c'est-à-dire que nous, on ne peut plus rien faire. Mais petit... Alors, je vous donne un exemple assez flagrant de ce rigorisme de l'Église primitive. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6. Il est impossible, en effet, pour ceux qui, une fois, alors, il était belge, hein, peut-être le même, pour ceux qui, une fois, ont été illuminés, qui, donc ça c'est le baptême, qui ont goûté au don céleste, ça c'est l'Eucharistie, qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, c'est la confirmation, on a l'initiation chrétienne, qui ont goûté la belle parole de Dieu, les forces du monde à venir, donc ceux qui ont reçu toute la grâce qui va avec le fait d'être chrétien, et qui néanmoins sont tombés, il est impossible de les rénover une seconde fois, en les amenant à la pénitence, alors qu'ils crucifient pour leur compte le Fils de Dieu et le bafouent publiquement. Donc vous êtes baptisé une fois, si vous tombez, vous recrucifiez le Fils de Dieu et il n'y a plus de baptême, il n'y a plus d'arcoum. Hein. Vous voyez, ça c'est quand même ultra rigoriste. Les gens étaient pas... Enfin, vous imaginez, les gens ne sont pas bien, quoi. Alors, heureusement, l'Esprit Saint va quand même travailler l'Église et on va introduire petit à petit une pénitence. On va dire on ne peut pas réitérer le baptême, mais on peut réitérer du baptême la partie vraiment de pardon des péchés actuels. Pas le péché originel, ça c'est pardonné une fois pour toutes. Et ça s'appellera la pénitence, d'abord une fois, puis ensuite la pénitence canonique, puis à partir du 8e siècle se met en place pour la pénitence qu'on connaît, donc voilà, vous allez au confessionnal. Et puis... Mais donc c'est quand même un gros problème, c'est pas uniquement que l'Église primitive ils étaient méchants. C'est qu'en fait, on voit bien que c'est quand même lourd d'incidence de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire que même baptisé, où on nous dit, vous avez tout le truc, le Fils de Dieu, mort pour vous, l'Esprit Saint, machin, l'Eucharistie, enfin le tout gros truc, et puis mais en fait, je suis toujours aussi pécheur qu'avant, quoi, ça, concrètement, ça n'a rien changé dans ma vie. Vous voyez, il y a de quoi douter du truc, hein, vous voyez, mais on m'a trompé sur la marchandise. Hein. Alors, je reviens à Romain. Donc, en gros, ah oui. Pardon. Et alors, ce que le Concile de Trente dit, finalement, c'est de dire, pour Luther, la libido ou la concupiscence est purement et simplement identifiée au péché originel, c'est-à-dire cette fameuse loi des membres qui me pousse à pécher et qui fait que ce que je veux pas, je le fais, et ce que je veux pas faire, je le fais, ce que je veux, je le fais pas, et ce que je veux pas, je le fais. Le Concile de Trente va, de manière à mon avis assez géniale, introduire un tout petit jeu JEU dans cette identification qui va en fait tout sauver. C'est-à-dire que ça va faire encore une prise de judo. C'est marrant parce qu'en général, les protestants sont plus dialectiques que les catholiques du fait de l'influence de saint Augustin, de saint Paul et puis bon, Luther lui-même, hein, qui est le saint patron des dialecticiens, après saint Paul et saint Augustin. Mais dans le décret sur la justification, bizarrement, la vision catholique est pour le coup plus dialectique que la vision luthérienne. C'est assez étonnant. Et donc, ce que dit le Concile de Trente, c'est que on est sauvé de manière tellement radicale, c'est-à-dire qu'il y a une telle transformation tellement profonde de notre être intérieur, donc tout ce que dit saint Paul, le Christ, grâce soit rendue à Dieu, que la libido nous est laissée pour que nous puissions, par la grâce, terrasser le démon en nous. C'est-à-dire que la vraie défaite, si le Christ vainquait, ça se dit, c'est juste ça de dire ça, vainquait le diable, non, victorier le diable, non, c'est encore moins français. Oui, à l'imparfait, non, c'est le Christ vainquait, c'est quoi, c'est l'imparfait. Voilà, si le Christ vainquait le diable. Enfin, que tout se passe derrière notre dos, en fait. Vous voyez, je suis... Ouais, puis il y a le diable qui fait son truc. Regarde, t'as quand même bien envie de manger ce chou à la crème. Et puis, il y a Jésus qui arrive, boum, boum, boum. Il donne un grand coup sur le diable. Tout se passe derrière mon dos, finalement. Alors, après, moi, je compte les points. Mais on pourrait dire que c'est quand même... C'est pas vraiment une rénovation intérieure de l'homme. Alors que si le Christ me donne les moyens d'être vainqueur, et donc de vaincre en moi, par la grâce, la libido, là, j'ai vraiment terrassé le démon. Alors, le danger, c'est que, bon, ben, comme la libido est encore là, c'est un combat. Un combat, ça veut dire qu'on peut perdre. Donc, vous voyez que ce que dit le Concile de Trente, ça explique tout. Hein. Ça explique pourquoi un baptisé peut finalement terminer en enfer, pourquoi la vie spirituelle, c'est compliqué, mais aussi pourquoi, faut quand même le dire, il y a quand même des moments où on réussit à progresser, soyons quand même pour une fois optimistes. Il y a des moments où... non mais c'est vrai, il y a des moments où on franchit des étapes. D'ailleurs, il me semble que ce serait souvent, c'est un jour où on dit, tiens mais c'est marrant en fait, je ne commets plus du tout ce péché. Et on se dit, bah, tiens, voilà, ça fait, j'ai obtenu une victoire, peut-être une petite victoire, mais enfin c'est déjà ça. Et, oui, et on avance vraiment, et puis alors les saints, je dirais que ça c'est aussi la preuve et l'attestation que Dieu nous donne, les saints qu'on vénère, les saints du calendrier, les saints qu'on... On dit, bah oui, mais vraiment, la grâce est victorieuse du démon. Donc voilà en gros la réponse de Trente. Alors ça va un petit peu plus loin que saint Paul, mais enfin, c'était pour ce rôle... Enfin, le chapitre 7, c'est vraiment une croux, c'est la croix des exégètes. Alors, je lis très vite le chapitre 8. Oui. Alors, à mon avis, c'est tout homme. Comme il a égalisé la situation, ça marche. C'est peut-être plus éloquent pour un juif, mais au fond, je pense que ça marche aussi pour un païen. Voilà, exactement. Et en fait, grâce soit rendue. Donc, qui, malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me vaut la mort. Donc, tu es juste avant de plonger dans le bain du baptême. Donc, tu dis malheureux homme, ben, pouf, tu plonges. Je sais pas si on se baptise comme ça, mais pouf, tu plonges. Crac, t'es enseveli avec le Christ, tu remontes et tu disais grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur machin là. Enfin, c'est grâce.
Nous, en tant que baptisés, on est plus censé avoir
la. Tu peux la redire comme Paul en faisant mémoire. Normalement, ce que tu n'as pas le droit de dire, c'est malheureux homme que je suis. Parce que de toute façon, tu as reçu la grâce. De toute façon, tu as reçu la grâce. Ça, non, mais ça, c'est une bonne intervention. Hein. Je pense que c'est une. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, le. Même, mais c'est bon, je le dis comme ça, entre la poire et le fromage, enfin, de manière toute simple, mais bon, un baptisé qui pêche, il souffre. Enfin, il souffre vraiment, donc on est malheureux de pécher, on est très malheureux de pécher, mais on n'a pas le droit de dire malheureux homme que je suis. Exactement. Parce que la seule chose que tu as le droit de faire, c'est de confesser et de dire, mais grâce soit rendue à Dieu, je vais terrasser le démon. Et oui, mais tu vas le terrasser comment, en fait?
comme, alors là, vous m'écartez de... Enfin bon, mais c'est en même temps, c'est dans le sens du texte, mais il y a deux sortes de saints. Il y a celui qui finit par ne plus jamais tomber et celui qui se relève toujours. Ce qui est un tout petit peu ce que Martin Scorsese essaye de faire, à mon avis, dans Silence. Avec la figure de... je sais plus comment il s'appelle, là, le Yoshiro. Le type qui n'a absolument aucune volonté, mais qui continue quand même à se confesser et qui finit même, entre guillemets, à mon avis, par sauver le prêtre apostat, puisqu'il le force à lui donner l'absolution. Ça rejoint un peu un thème aussi de la puissance et la gloire, d'ailleurs. De... Et rien ne prouve, alors moi, alors là, ça, je fais du roman, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je pense vraiment qu'aux yeux de Dieu, encore de nouveau un décalage entre la morale et la vie spirituelle, même si vraiment la vie morale est importante, hein, attention, hein, là, tout à l'heure, après, truc, je vous dis, j'ai peut-être pas été, enfin, je voulais, c'est hyper important la vie, seul le chrétien qui ne considère pas sérieusement la vie morale, enfin, il finira très mal, c'est tout, enfin, voilà, je vous le dis comme je le pense. La vie morale, c'est-à-dire les 10 commandements, enfin, bon, c'est vraiment pas de la blague. Mais du point, c'est pas la morale qui définit notre sainteté. Et le saint qui finit par ne plus jamais tomber, ben, il a la grâce sur cette terre de faire... Merci. Ça me touche beaucoup. Le saint qui finit par ne plus... Bon, en gros, je sais pas, enfin, les saints du calendrier, hein, parce qu'on reconnaît la vertu, l'héroïcité de la vertu, on peut dire en lui la sainteté et la vie morale finissent par coïncider sur cette terre. Le gars qui se relève toujours et qui lui manifeste autre chose, c'est-à-dire vraiment, à mon avis, c'est quelque chose de qui touche profondément le cœur de Dieu, c'est le gars qui refuse le désespoir, qui refuse de dire malheureux homme que je suis. Et il le dit, mais il le dit avec des larmes en fait. Il le dit parce qu'il retombe toujours, ça fait 40 ans qu'il lutte, mais il n'a jamais quitté le champ du combat. C'est le bon larron. Le bon larron, c'est vraiment le dernier train qu'il prend. Mais je pense que du point de vue de la sainteté, j'en sais rien, enfin, je ne veux pas parler à la place de Dieu. Peut-être y avoir un éclair, tu dis n'importe quoi, je vais mourir foudroyé. Mais je ne suis pas sûr que Dieu, entre guillemets, aime plus ou a plus d'estime pour le saint moral que pour le gars qui se relève toujours. Je pense que les deux, il dit mais c'est fabuleux, les deux, ça fait son admiration. Parce que les deux manifestent quelque chose de lui d'assez différent. C'est que la grâce, elle peut nous amener vraiment dans une moralité extraordinaire. Enfin, une moralité, mais c'est même plus de l'héroïsme, même pensons à Saint-Maximilien Kolbe. Mais le gars qui jamais n'a baissé les bras, qui jamais n'a désespéré, qui jamais a dit « malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» alors qu'il a été baptisé, il dit aussi quelque chose d'essentiel de Dieu, dans la mesure même où la sainteté, c'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est ce que Dieu nous donne. C'est le bon larron. En fait, je me dis, avec le bon larron, Jésus, et le mauvais larron, on a un peu toutes les situations. Jésus, alors pour le coup, il faut reconnaître que Jésus, c'est plutôt l'héroïsme. C'est le modèle du martyr. Mais le bon larron, c'est quand même un bon larron. Enfin, il a quand même sa place, et puis il y a le mauvais larron. Alors lui, il dit, voilà, lui, c'est la révolte, c'est le...
Mais est-ce que vous pouvez définir la sainteté en trois mots Non mais si la sainteté c'est pas
la sainteté, moralité, je dirais que la sainteté c'est intégrer la moralité dans le monde de Dieu. Ce qui peut se faire de plein de manières différentes. Parce que intégrer sa moralité, ça peut être intégrer sa moralité déficiente en amour de Dieu. Mais on n'a jamais le droit, jamais, de viser l'immoralité comme telle. Ça, c'est complètement verboten. Ça, c'est péché. Ça, c'est même... Je pense que c'est très grave. C'est vraiment très grave. En gros, enfin, c'est exactement ce que dit saint Paul. Hein. Que dire alors qu'il nous faut rester dans le péché pour que la grâce se multiplie? Certes, non. Vous devez lutter de toute votre force contre le mal. Tout le temps. Le mal moral. Tout le temps. Mais si vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas le droit de désespérer. Et là, vous intégrez votre moralité déficiente dans votre amour de Dieu. Mais si vous cessez de lutter contre le mal, vous finirez en enfer. Enfin, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Il faut toujours lutter contre le mal jusqu'au sang, hein, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais des fois, on a beau lutter, on n'y arrive pas. Enfin, il faut être clair. Hein. Il faut être clair. Il y a des gens, comme prêtre, on entend des... Bon, comme tout le monde, hein, mais c'est pas simple. Mais il faut lutter. Et si vous luttez jusqu'au bout, en fait, vous êtes vainqueur. Ou bien parce qu'à un moment donné, le Seigneur vous donnera la grâce de ne plus pécher, ou bien parce que le Seigneur vous donnera une autre grâce, c'est la grâce de persévérer dans l'humilité de la confession et de dire, ben voilà, ben, mon Père, c'est la 42.377 fois que je viens confesser ce péché, et vous dire, ben, mon Fils, rend grâce à Dieu et qu'il te pardonne. Vous voyez, ça, c'est le christianisme. Ça, c'est le christianisme, le vrai christianisme. C'est pas un moralisme, mais ça prend au sérieux le bien, ça prend au sérieux le décalogue, ça prend au sérieux la parole de Dieu. Bon, je lis quand même le chapitre 8, puis je m'arrête, mais du coup, je pensais terminer ce matin. Alors, ça va aller très vite. Il faut quand même qu'on termine sur quelque chose de positif. Hein. Il n'y a, donc, vous voyez que ça a été mal coupé, là, il y avait un chaos sous la diligence. Où est-ce qu'il aurait fallu couper le chapitre 7 ?
Au passe 42. Arrêtez la phrase précédente.
Voilà, exactement. Donc, dommage que ce soit pas Joaquin qui ait coupé la Bible en chapitre. Donc, le chapitre 8 devrait commencer au chapitre 7-25. Hein, c'est vraiment la même... Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. La loi de l'esprit. Alors, il continue de jouer avec le mot nomos. Hein. La loi de Moïse, la loi des membres. Maintenant, on a la loi de l'esprit. Donc, la manière de vivre dans l'Esprit Saint qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. De fait, chose impossible à la loi, impuissante du fait de la chair, alors là c'est chair versus esprit, donc c'est le péché, Dieu, en envoyant son propre Fils avec une chair semblable à celle du péché et en vue du péché, a condamné le péché dans la chair. Qu'est-ce que c'est qu'une chair semblable à celle du péché? Voilà, bravo, bravo, mais c'est bien, c'est vraiment bien, c'est vraiment, je suis, c'est très bien. Afin que le précepte de la loi fût accompli en nous, dont la conduite n'obéit pas à la chair, mais à l'esprit. Là, maintenant, qui parle? Enfin, c'est quoi le jeu? Enfin, nous, disons. C'est Paul chrétien qui parle, voilà, Paul baptisé, Paul chrétien qui parle aux chrétiens. Ici, Paul, les chrétiens parlent aux chrétiens. En effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel. Ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel. Alors là, pour le coup, on voit bien les deux dynamiques. Hein. Car le désir de la chair, c'est la mort. À la chair semblable au péché, hein. Le désir de la chair, c'est la mort. Tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix, puisque le désir de la chair est inimitié contre Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, il ne le peut même pas, de nouveau l'esclavage. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous, il parle aux Romains, enfin aux chrétiens de Rome, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Alors moi, dans ma traduction, j'ai des fois des minuscules, des fois des majuscules. On pourrait mettre que des majuscules. Qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort déjà en raison du péché, alors il fait allusion certainement à la mort dans le baptême, mais aussi au fait que baptisés, nous mourrons quand même. L'esprit est vie en raison de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts, c'est-à-dire le Père, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, mais non point envers la chair, pour devoir vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais cette fois c'est la mort vraiment de l'âme. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Et c'est là aussi qu'on voit à quel point je reprends la figure du larron, hein, c'est pas tellement celle que développe saint Paul, hein, ça serait d'ailleurs maladroit rhétoriquement, parce que c'est celle qui se rapproche le plus du juif, sous la loi. Mais bon, je prends le sens spirituel, et c'est quand même, à un moment donné, l'Église a pris un sens spirituel. En gros, sens littéral, c'est le premier saint Augustin, sens spirituel, c'est le deuxième saint Augustin. Mais c'est que la mort, justement, au bout d'un moment, elle me délivre de mes péchés charnels, puisque c'est la loi des membres du corps. Et donc, si je continue, je sais plus comment s'appelait le gars, mais qui confesse, hein, si je reste dans le combat... À un moment donné que je dis, mais mince, je voudrais bien ne plus avoir... pourquoi je retombe tout le temps? À un moment donné, j'accueillerai la mort comme vraiment un ultime geste de miséricorde de Dieu. Non pas pour me débarrasser tout le temps du corps, mais parce que maintenant, je suis prêt, alors peut-être après du purgatoire. Alors là, Paul ne parle pas du tout du purgatoire, mais je mets de la doctrine catholique ultérieure. Mais finalement, dans ma... Et pour attendre quoi? La résurrection du corps. Donc même là, c'est la défaite. Même là, le démon a perdu. Il perd tout le temps. Il avait toutes les cartes. C'est vraiment horrible. Il avait toutes les cartes. Il avait annoncé un capot. Et il se fait déshabiller. Et à la fin, il n'a plus aucune carte. Même la mort, qui était son plus grand atout, finit par apparaître à l'homme qui est dans l'esprit de Dieu comme une ultime miséricorde de Dieu. Je pense qu'il est dégoûté là. Si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui animent l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave. On retrouve cette métaphore fondamentale pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait écrier « Abba, Père ». Et peut-être bien que là, Paul fait écho au Notre Père. Hein. C'est dans l'Esprit Saint qu'on dit la prière du Seigneur. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Vous voyez, c'est que du positif hein, dans ce chapitre 8. Autant Romains 7, c'était tragique, autant Romains 8, c'est open bar, hein, vraiment, là, il n'y a que du bien. Hein. J'estime en effet que les souffrances du temps présent, qui demeurent, hein, ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Car la création, en grec c'est ktisis, en attente, aspire à la révélation des fils de Dieu, si elle fût assujettie à la vanité. Là, le mot vanité, c'est evel en hébreu, alors en grec j'ai oublié ce que c'est, mais si vous regardez dans une concordance, 8 emplois sur 10, c'est dans Kohelet. Donc là, il y a une allusion, il y a une reprise de Kohelet assez fine. C'est-à-dire qu'il donne la vraie réponse au cynisme de Kohelet. Mais c'est important que le cynisme de Kohelet soit présent dans l'Ancien Testament, mais c'est un autre problème. Si elle fut assujettie à la vanité, vanitas, vanitatum, donc non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et de qui s'agit-il? Qui a soumis la création à la vanité. Alors, c'est certainement pas Dieu. Ça pourrait être diable, le diable ou Adam, mais en fait, ultimement, c'est le diable, puisque si Adam le fait, c'est à travers le péché. C'est avec l'espérance d'être, elle aussi, libérée de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Esclave, servitude, liberté, hein, la grande métaphore de la rédemption. Pourquoi est-ce qu'elle est... Je me dis, entre la dikaiosune, les trois sont importantes, hein, la justification, la rédemption et l'expiation, mais c'est vrai que la rédemption, elle est vraiment sympa à cause de la thématique pascale. Et donc là, on dit l'Exode, on dit... Nous le savons, en effet, toute la création, de nouveau Ptisis, jusqu'à ce jour, gémit en travail d'enfantement. Alors, c'est un aspect cosmique du salut, assez étonnant, mais Paul semble dire que c'est pas simplement l'homme qui va être transformé, mais toute la création. Alors j'ai écrit, il se trouve que j'ai écrit un article remarquable sur cette question. Ça pour rigoler. Pour rigoler, je dis ça pour rigoler. Mais il se trouve qu'en fait, à cause d'un problème de traduction en latin, ça n'a pas été interprété dans un sens cosmique par les pères latins, parce que creatio existe, mais est très rare. Et donc on a rendu ktisis par creatura. Et donc, pour les pères latins, ce passage veut simplement redire que la creatura, c'est l'homme. Mais pas chez les Grecs, où c'est vraiment le cosmos en entier qui est transformé. Bon, c'est pas très important, mais enfin... Et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Et gémir, c'est à la fois un désir, une souffrance, mais bon... ça reste positif, hein. Ça va venir. La victoire, elle est acquise, hein. On n'a pas le droit de dire « malheureux homme que je suis ». On n'a pas le droit. Voilà. Car notre salut est objet d'espérance, et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Car et l'amour sans l'amour, est-ce encore de l'amour, disait... Donc l'espérer, voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Donc, faut assumer le fait qu'il y a un décalage entre le phénomène et l'être. Alors, je ne prends pas un vocabulaire paulinien, mais il faut assumer qu'avec le Christ, les choses ne sont plus dans leur fond, n'apparaissent plus exactement telles qu'elles sont. Par exemple, la mort. Les apparences de la mort n'ont pas changé, l'agonie est aussi douloureuse, la douleur des proches n'a pas changé. Mais le fond a changé. Ça, c'est... ça rend possible l'espérance. Il n'y a pas besoin d'espérance quand le phénomène révèle simplement l'être. Quand le phénomène est un apparaître, il n'y a pas besoin d'espérance. Quand le phénomène est une apparence, l'espérance peut surgir. C'est quand il n'y a plus d'espérance, c'est quand il n'y a plus d'espoir que l'espérance peut se lever. Ah, j'aime bien cette phrase. C'est quand il n'y a plus d'espoir que l'espérance peut se lever. Car notre salut est objet d'espérance. Hein? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Pareillement, l'esprit... Je ne sais pas qui est cette constance, d'ailleurs. Enfin, ça va être une amie de Paul. Donc c'est l'attendre avec constance. Pareillement, l'esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Donc là, vous voyez, intéressant. Hein? Ici, je dirais qu'on a un peu le fondement de la lecture spirituelle d'Augustin, puisque, alors même que c'est certain qu'on n'est pas dans le jeu fictif d'avant le Christ, Paul admet qu'on reste quand même dans une certaine faiblesse. Ça doit être asthénia, je pense, je ne sais plus très bien. Enfin, Donc là, on a exactement le... C'est vraiment du millimètre qui nous permet de mettre là-dedans tout ce que je vous ai expliqué sur le sens spirituel des rétractationnistes, puis la pénitence, le truc, de dire, mais en fait, c'est quand même pas une contradiction de ce que dit Paul. Il reconnaît qu'il y a une certaine faiblesse, mais l'esprit vient au secours de notre faiblesse. Voilà, ça c'est du pur christianisme. C'est pas qu'on est des héros, c'est pas qu'on est des supermen ou des superwomen, mais l'esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons que demander pour prier comme il faut, mais l'esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'esprit, que son intercession pour les saints, donc c'est les chrétiens, correspond aux vues de Dieu. Donc c'est vachement long le chapitre 8. Hein. Et nous savons qu'avec ceux qu'il aime, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés son dessein. Alors, de nouveau, car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés. Pas entrer dans la question théologique de la prédestination, mais c'est paulinien. Il les a prédestinés à reproduire l'image de son fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et de nouveau un sorite, il aime bien les sorites. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et de nouveau, alors il ne peut pas s'empêcher, Paul, hein. Que dire après cela? Il chante la gloire de Dieu, enfin l'amour de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? De nouveau le cri de victoire. Hein. C'est vrai, si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Allusion à Abraham, à la Kéda, Genèse 22. Comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est qui l'accusateur? Satan. Est-ce que Satan a encore une place au ciel pour dire hein, « Regarde un petit peu, là, farfouille un petit peu quand même, sous le tapis, là, regarde les factures, il y a peut-être bien une fausse facture, là, regarde la caisse noire des Prinstala, là, s'il n'y a pas des petits trucs. » Est-ce que Satan a encore une place pour accuser les chrétiens? Ça ne veut pas dire que les chrétiens commettent plus le péché. Mais dans la mesure où, oui, encore une fois, hein, je dis, on peut les confesser, il n'a plus de place, Satan. Ça veut dire quoi que Satan a plus de place pour accuser? En termes de la symbolique spatiale. Oui, mais donc, normalement, il est au ciel dans la cour céleste. Voilà, il tombe du ciel sur la terre, ça, c'est un motif. Bravo! Mais si mes séminaristes étaient bons comme vous, c'est exactement un motif apocalyptique. C'est ça que ça veut dire, en fait, hein, la chute. Je vois Satan tomber comme l'éclair. C'est ce que dit, c'est qu'est-ce qu'il dit Jésus. Hein. C'est ça qu'est-ce qu'il dit. Hein. Qui se fera? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je, ressuscité, qui est à droite de Dieu, qui intercède pour nous? C'est ça que vous croyez? Vous croyez que le Christ qui est mort pour vous, qui intercède pour vous, vous croyez que c'est lui qui va prendre la place de Satan pour vous accuser? Mais pas une seconde. On n'y croit pas une seconde, c'est ça. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive, selon le mot de l'Écriture, à cause de toi. Alors ça c'est un psaume. Le mot psaume 16, je crois. À cause, je sais plus, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour, nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Et c'est vrai, hein, des fois les chrétiens, c'est de la chair à canon. Hein. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, principautés, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, et moi je rajoute, ni le péché. Ça, c'est le sens spirituel. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.